La radio au studio 105. Ainsi se referme ce concert d'archives sur le thème des rencontres entre le jazz et la musique contemporaine. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur le site de France Musique et sur l'appli Radio France. Et puis vous pouvez également réécouter l'émission de Thomas Vergracht avec Roberto Negro. Il est 23h sur France Musique. Nous retrouvons Anne Montaron pour Création Mondiale.
Bonsoir et bienvenue dans Création mondiale, la coda du feuilleton contemporain de la semaine sur France Musique, un feuilleton signé Edith Canaccisi. Il s'agit d'une suite pour piano écrite sur mesure pour la pianiste Dana Ciocarli, une collaboration placée sous le signe de l'évidence.
En fait, c'est Dana qui est à l'origine. D'accord. Parce que, bon, pour des questions personnelles, j'avais toujours beaucoup d'appréhension à approcher le piano. Bon, c'est simplement une histoire d'enfance, parce que j'ai commencé par le piano quand j'avais 5 ans, et puis je suis tombée sur un professeur âgé, acariâtre, qui m'a vraiment dégoûtée, détournée. Et c'est comme ça que j'ai commencé le violon, avec ma tante. Mais il m'est resté du piano que j'adorais, vraiment quelque chose que j'ai jamais pu dépasser, vraiment. Bon, j'ai écrit pour piano des petites pièces, évidemment, des pièces pour de musique de chambre, mais je crois que c'est l'année dernière, Dana m'a dit, mais enfin, écoute, pourquoi tu n'écris pas pour piano? Je voudrais vraiment que tu m'écrives une pièce. Et là, je me suis dit, ah, avec Dana, ça serait bien.
Votre berceau, quand vous étiez enfant, était placé près du piano familial.
Tout à fait, mais vraiment à côté. Et mes sœurs, bien évidemment, faisaient du piano. Et j'ai toujours gardé ce souvenir extrêmement primaire. Vous savez, quand on est un nouveau-né comme ça, on a parce que j'avais la tête au niveau des marteaux du piano, c'était un piano droit, de la sonorité des pianos qui attaquaient les cordes. Et c'est une chose qui m'est toujours restée. Donc la frappe et la résonance, bien sûr.
Oui. Alors là, vous utilisez le piano vraiment de façon traditionnelle, il n'y a pas vraiment de piano préparé, sauf quelques petites interventions, à la fin des pièces notamment.
Alors j'aime beaucoup, pas le piano préparé, mais les interventions, le mode de jeu dans le piano.
Oui.
Sauf que quand il s'agit, j'ai pensé au concert, et effectivement quand on voit le pianiste se lever, se rasseoir, je me suis dit non, je veux pas faire ça. Mais par contre, j'ai gardé une touche justement de jeu dans le piano à chaque fois. Donc il y en a 5, elles sont toutes les 5 différentes, pour rappeler justement que le jeu dans le piano peut être très très intéressant aussi.
Alors c'est une petite gymnastique, Dana. À la fin de chaque pièce, il faut se lever et aller chercher dans le piano.
Une gymnastique à chaque fois un tout petit peu différente.
Oui.
Mais je voulais rebondir sur ces souvenirs d'enfance avec le marteau. Et justement, en fait, à la fin de chaque pièce, pour moi, c'est vraiment les seuls vrais éléments percussifs sur son ceci. La plupart du temps, c'est presque un moment d'oubli des marteaux. Donc, ça donne la fluidité, le mouvement et l'aérien. Et donc, le rappel de chaque fin, c'est le rappel de ce souvenir d'enfance. Mais est-ce que là, j'ai vraiment beaucoup...
Alors, ce qui est difficile, c'est d'éviter de faire quelque chose de pianistique, au sens, avec les guillemets qu'il faut, c'est-à-dire en référence avec tout le répertoire de piano. Alors là, c'est vraiment quelque chose dont j'avais très peur. C'est comme pour l'orgue.
Hein,
l'orgue, ce qui est intéressant, c'est quand on découvre d'autres choses. Et voilà, je pense que cette thématique de la mer m'a aidé à éviter ces réminiscences. Et j'ai cherché effectivement une palette sonore qui soit adaptée à chaque pièce, à chaque état de la mer.
Alors ça, dites-moi sur ça.
Ça c'est très bien ça, c'est très bien.
Quel est le principal défi pour une pianiste sur ce type de musique, Dana?
Comprendre les éléments, les comprendre d'une façon pas intellectuelle, dire, de façon à les rendre extrêmement naturellement et d'une façon très fluide. Voilà, le principal défi, c'est de trouver des moyens pianistiques de telle façon qu'on oublie le piano.
Alors, Sailing, c'est une pièce qui renoue avec un amour pour la mer, pour l'océan, Edith Kanachisi. La mer, vous la voyez, vous la regardez, vous la contemplez tous les jours quasiment.
Effectivement, j'ai la chance d'avoir une maison qui est à 50 mètres de la mer. Et je vois tous les matins le soleil se lever. C'est un paysage sublime. Et je pense que, sans m'en rendre compte, j'ai été vraiment imprégnée de ces paysages. Et puis, par ailleurs, j'ai fait du bateau. On avait un bateau, on a fait plusieurs croisières. Et voilà, quand j'ai pensé à cette pièce de piano, j'ai eu envie de retracer Sailing, c'est en voyageant,
oui.
En naviguant plus exactement. Et j'ai eu envie de parler de ces différents états de la mer.
C'était à Radio France en décembre 2020, sous les doigts de Dana Ciocarli, pianiste et navigatrice à la fois, le mouvement des vagues, le rugissement du vent, le miroitement de l'eau sur le sable, cinq visions de la mer, Ressac, Twinkle, autrement dit scintillement, Foghorn, corne de brume, Gust, coup de vent, et Estran, les cinq tableaux de Sailing.
Thank you.
Sailing, suite marine d'Edith Cana de Chizy, pensée pour France Musique et pour la pianiste Dana Tchokarli. Sailing vient de dérouler ses 5 tableaux sans interruption cette fois. C'est un authentique poème de la mer qui s'ajoute aux autres visions de l'océan composées par Edith Cana de Chizy, Over the Sea, Seascape ou encore Les vagues se brisant contre le vent. La compositrice nous l'a dit tout à l'heure, la mer fournit à son imagination un modèle d'énergie et de dynamique. Elle lui offre aussi, sur un plateau, l'idée de changement d'état, des effets de rupture qui rendent sa musique excessivement vivante. Dana Tchokarli était l'interprète idéale pour cette page. Dana Tchokarli était l'interprète idéale pour cette page qu'elle a rejouée à plusieurs reprises depuis la création publique à la cathédrale des Invalides en septembre 2021. Sailing a aussi voyagé sous les doigts d'autres pianistes. Équipe de prise de son de Sailing, Jean-Baptiste Etchepare-Borde avec Pierre Monteil, direction artistique Rafik Evorkian, coordination Amélie Burnichon. Un enregistrement inclus dans l'album monographique consacré à la musique de la compositrice paru sur le label Signature de Radio France en juin 2023. France Musique, création mondiale intégrale, Anne Montaron. Sailing nous a offert deux visages de la compositrice Edith Cana de Chizy, la navigatrice et la contemplative. Ces deux versants sont un reflet finalement assez exact de cette musicienne active, très active même à plus de 70 ans et amoureuse de nature, de peinture et de littérature. Au moment de la première diffusion sur France Musique de Sailing en février 2021, la situation sanitaire avait freiné la création de plusieurs pages de la compositrice. Certaines, néanmoins, avaient pu passer entre les mailles du filet. C'était le cas de Oh God, son 5e quatuor à cordes.
Alors, je l'ai intitulé Oh God. C'est une citation du prophète Isaïe qui commence comme ça. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Et qu'est-ce qui se passerait? Ben, les nations trembleraient, etc. Enfin, il y aurait des mouvements sur la terre, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait dans ce texte, justement, cette idée de vibration qui m'intéresse déjà depuis un certain temps. Savoir que la vibration est quand même un des éléments primordiaux du son. Et cette idée de vibration, pour moi, elle est vraiment, c'est le quatuor à cordes qui finalement peut le rendre le plus avec tous ces modes de jeu, les places d'archet, etc. Et choses que je connais évidemment en tant que violoniste parfaitement.
Les cordes vous occupent toujours autant, Edith.
Alors, bien sûr. Et il y a toujours à découvrir dans les cordes. L'écriture du quatuor à cordes, c'est vraiment un monde inépuisable. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire 5e, beaucoup de difficultés aussi, parce que plus on écrit pour quatuor à cordes, et plus c'est difficile de trouver d'autres choses. Et là, j'ai beaucoup joué justement sur les trémolos d'harmonique, sur justement des partiels qui ne sont pas catalogués, et ce qui fait que il y a toute une ambiance sonore qui sort de cette formation.
L'année 2021 a vu aussi la naissance d'une page d'Edith Cana de Chizy pour chœur et orchestre, Apocalypsis. Pour composer cette œuvre symbolique dans le contexte de la pandémie, la compositrice s'était replongée dans le texte de l'Apocalypse. La création de cette pièce a eu lieu en septembre 2021 à l'Arsenal de Metz avec l'Orchestre National de Metz et le chœur Les Métaboles.
Chant.
Peu de temps après Apocalypsis, toujours à l'automne 2021, l'altiste Patrick Auriol et l'ensemble orchestral contemporain dirigé par Bruno Mantovani ont donné naissance à Outre Noir, une page concertante directement inspirée par l'œuvre de Soulages.
J'ai voulu écrire sur Soulages. C'est une pièce évidemment qui va s'intituler Outre Noir, sur cette expérience de Soulages qui a été au-delà du noir et... cette notion d'au-delà étant aussi une des choses qui habite ma musique depuis très longtemps.
Mmh. Comment est-ce que vous regardez justement l'œuvre de Soulages, vous tant fasciné par la lumière?
C'est exactement ça, c'est fascinant. Mmh. Et notamment les vitraux de Conques que j'ai eu la chance de voir, qui changent au fur et à mesure de la lumière. C'est-à-dire que c'est un matériau qui absorbe la lumière et qui change de couleur. Mmh. Donc c'est absolument pas les mêmes au lever du soleil et au coucher du soleil. Voilà, pour moi, je trouve que c'est une expérience formidable d'aller justement, de se servir du noir comme étant justement réceptacle de lumière.
J'allais dire, Edith Canachesi, que dans une deuxième vie, vous seriez peut-être peintre, mais là, c'est renoué avec vos origines, parce que vous avez fait des études de beaux-arts, alors vous n'avez peut-être pas...
Non, j'ai fait une licence d'histoire de l'art.
Une licence d'histoire de l'art, oui.
C'est pas tellement la peinture en tant que telle... si, la peinture en tant que telle m'intéresse, bien évidemment, mais c'est le rapport, les résonances qu'il peut y avoir, le rapport entre le matériau pictural et le matériau sonore.
Oui.
Par exemple, chez Nicolas de Sales, que j'aime particulièrement, qui a commencé sa peinture avec une matière picturale très très épaisse, et qui la termine avec pratiquement rien, c'est-à-dire qu'on voit le grain de la toile. Alors ça, c'est pour moi, ça a une résonance immédiate avec le traitement du matériau sonore. Et ça, j'avais fait tout mon concerto d'alto là-dessus, justement sur cette palette sonore qui rejoint ce matériau pictural. Et il y a donc là, chez Soulages, évidemment, une autre dimension, et encore une fois, passage à la lumière, enfin le traitement de la lumière.
On a beaucoup évoqué la mer. Il y a cette très jolie phrase de François Porcil qui dit que composer, c'est naviguer vers un ailleurs et que ça vous va très bien, vous qui êtes navigatrice et amoureuse de la mer.
Absolument, et c'est absolument ça. Mmh. C'est tout à fait ça. Et c'est inépuisable. Et c'est finalement ce qui me motive à chaque nouvelle pièce, c'est de découvrir quelque chose d'autre et de continuer à chercher vers cet insaisissable. Et c'est ça que je trouve absolument, absolument fantastique, c'est que c'est un horizon qu'on n'atteindra jamais.
Thank you. Impossible d'évoquer toutes les œuvres nées depuis novembre 2021 dans l'atelier de composition d'Edith Cana de Chizy. Il y a eu Sunrise, une page concertante pour clarinette et orchestre, Arcane au pluriel pour deux accordéons et électronique, Spring pour deux harpes et ensemble, ou encore Suono pour orgue et duo d'accordéon. Plus près de nous, cette année 2024 a été féconde pour la compositrice qui s'est vue discerner le coup de cœur de l'Académie Charles Cros pour son album Waves, fruit d'une résidence de 3 ans avec l'ensemble orchestral contemporain. En février prochain, les Parisiens et Parisiennes pourront découvrir Skyline, une page d'orchestre d'Edith Cana de Chizy qui sera créée par l'Orchestre National de France à la Maison de la Radio et de la Musique. Cette émission Portrait se referme. Elle a été réalisée par Olivier Guérin et Françoise Cordet, avec Claude Niort et Julie Garot, avec Claude Niort, Julie Garot et Soizic Noël. Dimanche prochain dans Création mondiale, nous serons en compagnie du compositeur Samuel Sigicelli à la faveur d'une page toute neuve pour voix, piano préparé et électronique, l'incident voyageur. Début du feuilleton demain lundi 13h23 sur France Musique. Il est 23h30, carrefour de la création suite et fin avec l'expérimental.
France Musique, l'expérimental, François Bonnet.
Bienvenue à toutes et à tous pour cette expérimentale, une expérimentale en forme de documentaire. Un documentaire consacré à une œuvre majeure du répertoire électroacoustique français avec deux de ses plus grands compositeurs. Je veux parler de la Divine Comédie de Bernard Parmegiani et François Bell qui vient tout juste de paraître en version intégrale. Nous allons pouvoir écouter François Bell parler de cette œuvre avec quelques incursions d'archives que l'on doit à Lina. La Divine Comédie, un documentaire d'Alexandre Bazin.
Bernard Parmegiani, Enfer, la découverte de l'ombre, 1971-1972. François Bell.
L'aventure de la musique électroacoustique et donc ses débuts violemment expressionnistes de l'étape concrète pendant de longues années nécessitait quelquefois de trouver des thèmes telluriques, violents, qui soient parfaitement adaptés au style des sons et au style d'écoute, avec des ambiances, avec des personnages, avec des péripéties. Et la radio était très friande de ça, et c'était un grand rendez-vous d'auditeurs, la radiophonique. Et la musique concrète est un enfant de la radiophonique, il ne faut pas l'oublier. C'est comme ça que ça a commencé, en tout cas à Paris. Nous avions des grands précédents. Il faut le renvoyer à Schaeffer lui-même, quand il l'a conçu au début de la musique concrète, de mettre à l'épreuve de l'écoute un thème important, et il avait choisi Orphée. Il y a un deuxième précédent, c'est l'Apocalypse de Saint-Jean de Pierre-Henri, qui, elle, a été une réussite extraordinaire, qui était un monument inégalable. Et c'était très, très audacieux, derrière cela, d'entreprendre quelque chose qui pourrait risquer de lui ressembler d'une manière beaucoup plus pâle. C'était très casse-gueule de faire ça, certainement.
François Bell, Purgatoire. Danse des chiffres, 1972.
purgatoire. Qui êtes-vous? Vous qui avez fui la prison éternelle. Premier temps. Première épreuve. Chiffre 1. L'ange de Dieu. La Babelle des Princes. Chiffre 3. La porte. Deuxième ange. Chiffre 4. Ouvre les sculptures. Chiffre 5. Extase. Chiffre 6. Danse de l'ange feu. Chiffre 7. Maître de toi-même. Chiffre 8. C'est celui de Béatrice. Chiffre 9. C'est celui de la vérité révélée. Ou transparence.
François Bell.
J'avais conçu et réalisé une œuvre qui s'appelait Espaces inhabitables, qui a fait l'objet d'un disque dans une série qui était prestigieuse à l'époque, qui s'appelait Prospective du XXIe siècle, une série argentée, et qui était très largement diffusée. Et un jour, un spéléologue qui s'appelait M. Carcabi se promenait entre deux avions dans un aéroport à Rome. Et il y avait un disquaire qui avait étalé des produits. Surpris par la formule argentée du disque, et puis par le titre « Espace inhabitable », ce spéléologue avait une résonance spéciale à ces termes, puisque une grotte sous-marine de surcroît, c'était aussi un espace inhabitable, et il avait le désir d'inaugurer une grotte à Jeïta, à Beyrouth. Donc cet homme voit mon nom et m'appelle au téléphone, en me disant, c'est vous le compositeur d'Espace inhabitable. Et je voudrais vous montrer un espace inhabitable que je voudrais inaugurer par un concert. Le concert a lieu, c'est un grand succès, et je fais connaissance là-bas d'un poète qui s'appelait Georges Chehadé, poète libanais, en 1970, qui me met sur la voie, qui me dit, votre musique serait tout à fait l'idéal pour traiter la Divine Comédie de Dante. Moi, j'étais un garçon jeune et inculte. J'avais bien sûr entendu parler de ce titre, mais j'avais jamais lu la Divine Comédie. Et je suis évidemment emballé. Et à ce moment-là, le GRM était dans une situation très intéressante. Nous commencions à avoir quelques budgets et quelques confiances de la part de Pierre Schaeffer. Et donc, en tant que responsable du GRM, je me dis, il faudrait peut-être avoir un projet fédérateur pour créer une espèce de cohésion musicale parmi les compositeurs du GRM. Je propose la Divine Comédie comme œuvre collective. Mon idée tombe à plat. Même carrément, tout le monde hausse les épaules en disant, oui, pourquoi la Divine Comédie? J'échoue dans le projet de faire une œuvre collective du GRM sur la Divine Comédie, sauf en la personne de Bernard Parmegidi qui relève le défi, qui me dit, ben moi, ça m'intéresserait. Je me sens bien intéressé à traiter l'enfer. En effet, ce serait l'homme de la situation.
Au milieu du chemin de la vie, je me trouvais dans une forêt obscure, car j'avais perdu la bonne voie. Comme celui qui le souffle haletant vient d'échapper à la mer, et sur le rivage se tourne vers l'eau grondante et regarde. Ainsi, mon esprit qui défaillait encore se retourna pour revoir le passage qui ne laissa jamais personne en vie.
Bernard Parmigiani, Enfer. Les portes, première contrainte,
1976. J'entrais dans le chemin difficile et sauvage.
François Bell.
Et quant à moi, j'avais beaucoup d'intérêt pour le purgatoire. Donc c'est comme ça que tout a commencé par cette série de hasards bizarres qui se prolonge avec un maillon de plus. C'est la rencontre avec Vittorio Biaggi, chorégraphe à l'Opéra de Lyon, qui est italien et qui rêvait depuis longtemps de faire une Divine Comédie, et qui un jour vient nous voir à Paris, et au fur et à mesure de différentes collaborations, où on a eu beaucoup de succès, beaucoup de monde, et lui-même était très inspiré, faisait de très belles chorégraphies, de fil en aiguille, dit « Et si on mettait au programme de faire une Divine Comédie chorégraphiée ?» Et voilà comment on est passé petit à petit d'une version de concert à une version chorégraphique, en y incluant à ce moment-là, en plus de l'enfer et du purgatoire, en y incluant le paradis, conçu comme une espèce de conversation improvisée, on pourrait dire, avec des événements spontanés. Et on s'est dit, on va faire un paradis minimaliste, parce que le paradis, c'est inconcevable, donc il faut en faire quelque chose de surprenant et de très vide, très vaste, très, très silencieux, d'une certaine façon, une espèce de paradis en pointillé.
Bernard Parmigiani et François Bell. Paradis, 1973-1974.
Thank you.
François Bell.
Il faut dire un mot de la dramaturgie de Dante. Dieu se fâche avec Lucifer, qui était son ange préféré, mais qui a mal tourné. Donc il attrape Lucifer et il le jette dehors du paradis, comme un caillou qu'on balance de rage. Lucifer vient heurter la terre et ça crée un énorme trou conique de plus en plus profond. Et d'ailleurs, Lucifer reste coincé au centre de la terre, au fond du trou. Et ça crée de l'autre côté de la terre une espèce de montagne qui est le résultat du choc. Dante entend parler de ça. Il veut retrouver Béatrice, qui est un amour qui s'est interrompu de bonheur parce que Béatrice est morte toute jeune. Il veut la retrouver, elle est au paradis. Et pour ça, Virgile, son aide, son guide, lui explique que pour aller au paradis, il faut malheureusement commencer par descendre dans le trou des enfers, passer de l'autre côté du monde, trouver là cette espèce de montagne qui a été provoquée par le choc, grimper en haut de la montagne où on retrouve le paradis terrestre, et là, Béatrice va l'attendre pour ensuite l'amener au paradis céleste dans la lumière éternelle.
Bernard Parmigiani, 1973.
J'ai là pris la voix du comédien à la fois pour le texte dit et le texte vocalisé.
Par moi.
Et je lui ai fait dire les syllabes qui composent chacune des phrases dites. J'ai repris ces syllabes et je les ai ensuite superposées par mixage à la même vitesse d'ailleurs, pour faire cet effet de chœur. Je n'ai pris que les syllabes des mots du texte qui est dit. Ce texte qui est l'inscription, en fait, que l'on voit sur la porte du haut enfer.
La justice inspira mon sublime artisan. La divine puissance m'a faite. Et la sagesse. Et le premier amour.
Nous allons arriver à un moment où le son va lui-même se manipuler, si je peux dire, par une sorte de retournement. Enfin, ça donne une impression de retournement, c'est un phénomène de déphasage entre des sons. C'est déjà une forme de manipulation électronique.
Voilà, ici.
C'est ça.
Ce qu'on appelle le phasing.
Laissez toute espérance.
Il suffit de faire dérouler deux magnétos ayant le même support, je veux dire le même contenu sur la bande magnétique, mais la vitesse différente des magnétos fait que les éléments sont en phase ou ne sont pas en phase. Alors il y a un retard et une avance qui se fait progressivement entre les deux éléments.
Le ciel les a bannis parce qu'ils ternissaient sa splendeur. Et l'enfer les repousse parce que les coupables tireraient quelque gloire de leur présence. Quel tourment les accable. Ils n'ont pas l'espérance de mourir. Le monde les a oubliés. La miséricorde et la justice les dédaignent. Mais ne parlons plus d'eux. Regarde et passe.
Alors là, l'étendard humain, c'est-à-dire que j'ai traité ceci d'une façon évidemment très schématique. Il n'était pas question d'utiliser tous les cris et tous les pleurs que l'on peut entendre en enfer de la façon la plus réaliste, ou alors c'est traité jusqu'au bout, jusqu'à son exorcisme, ça sera fait plus loin. Ce sont des éléments purement concrets, ici, que j'emploie. À partir de frottements de plastique sur des verres, transposés, filtrés, superposés. Alors c'est une forme de stylisation de la voix. Nous entrons dans une partie beaucoup plus électronique dans laquelle je me suis inspiré d'une image de Gustave Doré, de cette espèce de, comment dirais-je, de longue guirlande humaine qui est une forme un peu tourbillonnaire, et c'est cette forme que j'ai voulu donner à ce passage qui s'intitule l'étendard humain, cette espèce de continuum en continuelle variation à la fois de hauteur de tessiture auxquelles viennent se mélanger des sons plus aigus, enfin une espèce de banderole sonore, si je peux dire, de tourbillon sonore.
Jamais âme juste ne passe par ici.
Très long décrescendo. En fait, c'est une note dont la résonance est extrêmement longue. Au début, c'est une note qui est formée par une variation de la dynamique. Elle est entièrement formée. C'est-à-dire que j'ai pris une attaque et j'ai pris un son continu et j'ai à ce son continu donné une variation très sensible comme si c'était une résonance, mais une résonance très longue. C'est un peu comme si je conduisais un orchestre par mon geste vers un triple ou un quadruple piano très 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 progressif.
François Bell.
On n'était pas dans la maison de la radio à cette époque-là. On était dans un petit hôtel particulier que la radio avait acquis dans le temps jadis. Le studio 52, c'était au centre Bourdon. Il faut en effet évoquer que, par contre, on venait de recevoir une console originale, étudiée pendant de longues années par un merveilleux inventeur qui s'appelait Henri Chiarucci, un chercheur technicien extrêmement subtil, aidé de Guy Rebel, qui lui aussi avait des capacités techniques. Il était sorti d'une école d'électricité, Guy Rebel. C'était un compositeur avec une oreille extrêmement fine. C'était un musicien de métier, doublé d'un ingénieur avec des capacités technologiques pointues. Et Guy Rebel et Henri Chiarucci avaient conçu l'idée, avec l'aide de Francis Coupini, qui était le responsable technologique du service de la recherche, l'idée d'avoir sur une console toute une banque d'oscillateurs faciles à patcher avec des aiguilles. C'était très intuitif, ça nécessitait une certaine dextérité, bien sûr, mais enfin, voilà, c'était un objet très très original. Ça a été le départ des grandes œuvres de cette époque-là, Jaïta, De Natura Sonorum, L'expérience acoustique, voilà, sont nés de là.
François Bell, 1973.
Alors, il y a beaucoup de sons électroniques qui se manipulent dans le studio à partir des clés, à partir des fiches et des boutons des générateurs sonores. Mais il y a aussi beaucoup de sons concrets qui, donc, au préalable, s'enregistrent en studio et se traitent ensuite à un autre moment au cours de la réalisation de la musique. L'un de ces matériaux qui m'a beaucoup servi dans l'extrait qu'on entend, là, la danse de l'Angefeu, c'est un matériau dû à Michel Portal, à la clarinette. C'est une prise de son de clarinette qui était d'ailleurs assez spéciale, puisque c'est une clarinette accompagnée par moi-même dans un clavecin. Je joue à l'intérieur d'un clavecin dans les cordes avec un instrument africain qui s'appelle un zanzi. Et en agitant en même temps un petit instrument africain à lame vibrante que je fais sonner et qui utilise la caisse du clavecin comme résonateur, c'est-à-dire qu'il l'amplifie énormément. De sorte qu'on entend déjà ce qui est une sorte de manipulation sonore, on entend les sonorités de clarinette dans lesquelles je mêle ces sonorités pincées de lame et de cordes. Je lui demandais des sonorités qui soient un petit peu agitées, avec des petits arrêts, des petites résonances, et on réglait cela oralement, au fur et à mesure. Voilà ce que ça donnait. En voici 4 extraits de cette prise de son. Alors là, il a eu l'idée de faire une sorte de trémolo, dans lequel je mariais, moi, une autre manière de trémolo en agitation sur les cordes. Prise de son un peu complexe. Alors ici, c'est un autre trémolo très lent auquel j'ajoute ces notes de zanzi. L'agitation de cet objet africain sur les cordes est un peu en relation avec l'agitation des doigts du clarinettiste sur son instrument. Ici, là, c'est en se servant du bruit des clés de l'instrument, le bruit des doigts sur les clés de l'instrument, qui se marie aux agitations sur les cordes et aux frémissements de l'objet africain sur les cordes du clavecin. Ce qui produit un amas de sonorités qui ont des relations entre elles, relations plastiques, relations énergétiques essentiellement. C'est très grossi par le microphone, en captant le son de très très près et en le grossissant énormément, de manière à pouvoir ensuite être manipulé, ralenti, accéléré, superposé, comme on va d'ailleurs le constater dans l'exemple qui succédera à cette prise de son. Après avoir dépouillé cette prise de son, lui avoir retiré bien des passages inintéressants et avoir conservé seulement des parties essentielles, caractéristiques, je me suis livré à une manipulation qui consistait à enrichir ce matériau en le superposant à lui-même, en l'agitant davantage. Alors ici, il y a des rapports de hauteur aussi qui s'établissent avec une sorte de glissando sur les cordes et avec un intervalle qui insiste et dont je me suis beaucoup servi ensuite dans la danse. Les espèces de sforzando du souffle de l'instrumentiste se marient aussi avec les sforzando provoqués par des pincements de cordes. Voici dans une version accélérée le résultat définitif de la manipulation, transposé en hauteur pour l'intégrer par rapport aux nécessités d'ordre musical. Voici le même élément qui se trouve marié maintenant à des sons électroniques qui lui font une série de trajets mélodiques et on retrouve aussi certaines de ces agitations dynamiques qui sont ralenties, elles, qui vont en s'évanouissant. Alors voilà donc un spécimen de manipulation. Maintenant, on entend un peu plus loin dans la danse de l'ange-feu un autre élément sonore qui ne m'a pas été fourni au cours d'une prise de son. C'est un élément travaillé à partir de cordes, de violon et d'orchestre à cordes, que j'ai pris sur un disque. Un disque d'orchestre de cordes, j'ai extrait d'un sillon une espèce de flamèche de son de cordes qui fait 2 secondes et qui donc n'est d'aucune musique sinon d'être un matériau de violon qui peut ensuite être traité en lui-même. Alors là, nous retrouvons un peu plus loin dans une autre des parties, puisque cette danse est en 6 parties qui alternent leurs matériaux réciproquement.